Littérature sans frontières. Catherine Fruchon-Toussaint. Fanny Renard.
Bonjour à toutes et à tous. Au sommaire de l'émission aujourd'hui, notre rendez-vous mensuel avec le magazine Books, notre partenaire, qui vient de publier un numéro spécial consacré aux femmes singulières. Et parmi la trentaine de portraits de ces femmes qui ont joué un rôle majeur dans l'histoire des arts ou des sciences, celui de Hedy Lamarr, actrice à Hollywood, mais aussi inventrice. Baptiste Touvré nous en parlera tout à l'heure. Mais pour commencer, à l'approche des fêtes de Noël, rencontre avec un écrivain français qui vient de publier une comédie sur cette époque où l'on ne parle que de cadeaux et de réveillons. Un livre au titre un peu provocateur même, puisqu'il s'intitule « L'Italienne qui ne voulait pas fêter Noël » aux éditions Buchet-Chastel. L'auteur nous en lit un extrait tout de suite.
Donc, le matin du 24 décembre, je décidai que le soir, je ne ferais rien. C'est-à-dire que je sortirais de la maison avec mon ordinateur, j'irais me poser quelque part où il y aurait du réseau, je me connecterais à Skype, et là, je tiendrais compagnie à Sergueï Ivanovitch Dumollard jusqu'à ce qu'il en ait marre, et basta. À la limite, si j'avais faim, j'irais m'acheter un kebab ou une part de sfincione, et si j'avais soif... je trouverais une fontaine d'eau potable et j'essaierais d'atteindre le jet sans avoir à traverser le bassin à pied. Non que je craignisse la comparaison avec Anita Ekberg, mais je n'avais pas de bottes en caoutchouc à dissimuler sous ma robe de Gherardi, ni de robe de Gherardi d'ailleurs, donc si c'était trop compliqué, j'irais plutôt m'acheter une canette de bière et de cette façon, je ressemblerais très fidèlement à une pauvre fille qui se saoule toute seule dans les rues désertes le soir de Noël.
Bonjour Jérémy Lefebvre.
Bonjour.
Comme nous venons de l'entendre dans cet extrait de votre roman, voici donc l'Italienne qui ne voulait pas fêter Noël. Cette jeune femme, Francesca, étudiante en France et qui, à cause d'un pari avec un ami, rentre à Palerme dans sa famille à l'aube du réveillon, mais pour annoncer à ses parents, frères et sœurs, qu'elle ne passera pas cette fête traditionnelle avec eux. Ce qui déclenche incompréhension, douleur, tristesse pour les siens. Comment est née cette idée de situation romanesque, Jérémy Lefebvre ?
Elle est née de l'envie d'écrire un roman qui soit à double tranchant, qui brasse des idées, des questions qui font un peu grincer des dents, qui sont un peu ambiguës, un peu douloureuses par moments, mais de le faire avec légèreté. J'avais une envie d'un roman un peu incisif, mais un peu comme les films d'Almodovar. Incisif, mais drôle et réjouissant. Donc j'avais envie de jouer sur deux tableaux à la fois, et je trouvais que cette histoire de pari, de défi lancé aux traditions, était une bonne manière de s'amuser tout en abordant des vrais sujets.
Restons un instant donc sur ce défi, parce que ne pas vouloir fêter Noël, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est un rejet de la tradition ou c'est un rejet de la famille ?
Je crois que c'est un rejet d'énormément de choses, parce que vraiment, on vit dans un monde où Noël concentre tout, c'est-à-dire c'est à la fois la célébration de la famille, c'est à la fois le moment où l'individu est exposé à toutes ses fragilités les plus intimes, les plus inavouables, c'est la tradition, c'est la fidélité, c'est les rendez-vous qu'on prend avec des gens qu'on ne voit pas forcément très souvent, donc ça a un caractère absolument sacré, et c'est surtout le signe qu'on n'est pas seul. Parce que vraiment, ne pas fêter Noël, c'est tout de suite un message lancé qui signifie aux autres « Je suis seul au monde, je n'ai personne autour de moi, je suis très malheureux. » quoi.
Choisir une famille italienne, ce n'est pas un hasard, évidemment. Parce que j'imagine que vous pensez, Jérémy Lefebvre, que dans ce pays très catholique, c'est encore plus transgressif de ne pas fêter Noël.
Oui, c'est un pays beaucoup plus catholique que la France et beaucoup plus axé sur la famille que la France. En France, on a quand même plutôt tendance à râler à propos de Noël, à se plaindre de tout ce que ça peut représenter comme contrainte, comme corvée et aussi comme lourdeur affective, relationnelle. Les gens ont une vision assez négative. négative aussi de la famille. Ils en ont besoin, mais ils aiment beaucoup. Ils ont aussi besoin de s'en émanciper. Ils ont besoin de la critiquer beaucoup et de se décharger, de se défouler. Et souvent, pendant tout le mois de décembre, on entend tout le monde dire « Quelle horreur, quelle sale période, j'ai hâte que ce soit fini. » Alors qu'en Italie, les gens, au contraire, se réjouissent, sont ravis de retrouver un peu une sorte d'innocence enfantine et de joie sans arrière-pensée à la convivialité, aux retrouvailles, la grande bouffe de Noël, le réveillon a une place absolument centrale. Tout ça est vécu dans une vraie joie et du coup, refuser ça, c'est beaucoup plus subversif que ça peut l'être en France.
Et quel est votre lien avec l'Italie, Jérémy Lefebvre, voire la Sicile? Parce que vous semblez très bien connaître la ville de Palerme, qui est le lieu du roman.
Ça fait pas très longtemps. J'ai découvert l'Italie à l'occasion d'une résidence d'auteur à la Villa Médicis en 2013, pour laquelle je me suis un peu préparé en commençant à apprendre l'italien. Et j'ai eu un vrai coup de foudre pour la langue. Ce qui fait que j'ai pas juste appris la langue, mais ensuite je me suis inscrit à l'université pour faire de l'italien et pour découvrir la littérature et la culture italienne. Et j'ai fait des rencontres et rencontré des gens, particulièrement une étudiante palermitaine absolument adorable qui m'a présenté sa famille. Et depuis, ma compagne et moi, on va très régulièrement en Italie et principalement à Palerme en Sicile, où on est vraiment tombé amoureux de cette ville.
Qui est un joyau absolu.
Oui, et puis qui est vraiment une ville de contraste terrible entre splendeur, misère, délabrement et luxe. Enfin, on se demande, à chaque rue, on se demande où on est. C'est vraiment un endroit très, très déconcertant pour les Français.
Pour revenir à votre roman, l'italienne qui ne voulait pas fêter Noël, au début, il faut rappeler que ce pari se joue aussi sur la question des clichés, précisément parce qu'elle est italienne. Un de ses amants dit à Francesca, oui, mais toi, tu ne peux pas te séparer de ta famille à cette fête traditionnelle. Donc on voit bien qu'à la fois, vous voulez démonter les clichés, Jérémy Lefebvre, et en même temps, j'ai noté que vous écrivez « J'ai le goût du bonheur, c'est mon côté italien ». C'est ce que dit Francesca. C'est un peu une généralité, ça.
Tout à fait.
C'est fait exprès, donc.
Tout le livre est un jeu de cache-cache avec les clichés, ce qu'ils ont de vrai, ce qu'ils ont de faux. Jusqu'à quel point on en a besoin pour voir la vie d'une façon un peu simplifiée, plus légère, puis parfois plus rigolote aussi. Et jusqu'à quel point il faut toujours voir... chercher à voir plus loin, jamais s'en contenter, c'est surtout ça le danger des clichés. Mais on en a besoin parce que si on baignait tout le temps dans la vraie complexité du monde, on pourrait jamais se retrouver, on n'aurait pas de point de repère. Donc les clichés sont nécessaires, mais il faut jamais les prendre trop au sérieux. Alors dans le roman, il y a un cache-cache permanent avec toutes ces idées toutes faites qui sont à la fois vraies et fausses. Et c'est un jeu comme ça, un petit peu de cache-cache.
Et sous ces airs de comédie, au contour existentiel, néanmoins, votre roman met le doigt sur des sujets très sensibles, à commencer par les réfugiés qui arrivent en grand nombre en Italie et provoquent un débat national entre ceux qui veulent les accueillir et ceux qui sont dans le rejet total. Et d'ailleurs, il y a une scène emblématique avec un jeune homme qui vient du continent africain, qui est assis par terre. Il y a un Sicilien qui lui apporte un sandwich et l'autre qui insulte son compatriote en disant « Mais non, il ne faut pas les nourrir, ils viennent prendre mon travail. » Enfin, voilà, il y a toute cette scène terrible. Et j'ai cru comprendre, Jérémy Lefebvre, du coup, que c'était une question qui vous tenait à cœur.
C'est une question dont on peut pas faire l'économie en ce moment, celle de comment on considère l'étranger, le réfugié, la personne qui arrive, la personne qui a besoin d'aide et jusqu'à quel point c'est une chance, jusqu'à quel point des gens peuvent se sentir menacés et pour quelles raisons ils se sentent menacés, c'est crucial et encore plus en Italie qu'en France. Le roman se situe juste avant l'accession, enfin quelques mois avant l'accession de l'extrême droite au pouvoir en Italie, donc toutes ces questions-là sont en phase de montée, mais on est encore à un stade où pour les gens qui ont plutôt une sensibilité de gauche, comme c'est le cas de la famille de Francesca, l'idée que Matteo Salvini un jour soit au pouvoir est grotesque. Et plusieurs fois, on voit à des plaisanteries, des allusions à quel point pour les gens c'est inimaginable. Or, on sait maintenant que quelques mois plus tard, c'est ce qui se sera produit. Et on est dans cet avant comme ça où tous ces sujets commencent à devenir brûlants, mais on n'est pas encore dans cette espèce d'atmosphère extrêmement lourde dans laquelle sont les Italiens depuis le printemps 2018. C'est vrai que, mais c'est un sujet qui ne peut pas ne pas être traité quand on parle de l'époque qu'on est en train de traverser. Je crois que là, c'est impossible.
Alors, puisque vous parlez de Matteo Salvini, en effet, à l'époque de l'action et de votre écriture, il n'est pas encore ministre de l'Intérieur. Mmh. Et il se passe un phénomène intéressant dans votre roman, c'est que Vous parlez par exemple du Nutella, qui est cette pâte à tartiner qu'adorent les enfants. Or, il y a quelques jours à peine, Matteo Salvini a déclaré qu'il ne mangerait plus de cette marque sous prétexte que les noisettes venaient de Turquie.
Oui.
Ça vous a frappé, non, cette...
Alors, oui et non, c'est-à-dire que moi qui connais, pas forcément très profondément, mais qui commence à connaître bien les fondamentaux de la culture italienne, je sais que le Nutella pour les Italiens, bon, c'est un produit, les Français ne le savent pas forcément, c'est un produit italien, mais c'est une sorte d'emblème presque de l'art de vivre dans la vie quotidienne des Italiens. Le Nutella est vraiment un des fondamentaux. Donc, évidemment, il a une place dans le roman avec une certaine distance, parce que pour mon héroïne, le Nutella, c'est d'abord un produit qui est fabriqué avec de l'huile de palme et donc dont il faudrait mieux se passer ou alors qu'il faudrait produire de façon différente. Et, mais si on est justement dans ce jeu de généralité sur une culture, sur... oui, pour les Italiens, le Nutella, c'est le produit qu'on a toujours dont les enfants ont un besoin vital au petit déjeuner ou au goûter. Et Matteo Salvini, qui ne fait pas forcément dans la dentelle, utilise absolument toujours des références qui sont très très parlantes pour les gens et avec lesquelles les gens, les Italiens ont des liens un petit peu viscéraux. Le Nutella, c'est on ne touche pas au Nutella. Voilà, en France, il y a d'autres équivalents qui pourront être dans l'apéritif, le vin, je sais pas. Il y a des produits comme ça qui sont emblématiques de l'art de vivre et du bonheur minimal, si vous voulez. En Italie, c'est le Nutella. Et évidemment, ce qui choque Matteo Salvini, ce n'est pas du tout qu'il y ait de l'huile de palme dans le Nutella, c'est que les noisettes viennent de Turquie. Bon, alors. Alors ça fonctionne très bien avec son obsession de l'identité nationale, mais non, moi, je peux pas être surpris qu'il s'empare d'un sujet comme ça, parce que c'est vraiment pour les Italiens presque une question de oui d'identité, une question de fierté, le Nutella.
C'est là où la réalité a rattrapé votre fiction,
tout à fait.
Si on peut dire. Autre sujet sensible, Jérémy Lefebvre, mais tout ça vraiment avec beaucoup de délicatesse, parce que on suit les aventures de Francesca dans cet affrontement familial, va-t-elle pas passer Noël avec ses parents. Et donc, ci et là, vous semez ces petites graines. Et par exemple, la question de la mafia.
Oui.
Alors, c'est très intéressant parce que vous dites à la fois que Palerme, c'est Paris avec des palmiers, mais qu'en même temps, tous les hommes ne se promènent pas avec un Beretta dans la poche. Donc, sous-entendu qu'à Palerme, on a encore des armes en libre circulation, c'est ça ?
Francesca a un discours ambigu par rapport à la mafia parce qu'elle est palermitaine et elle est habituée depuis qu'elle est née à considérer la mafia comme quelque chose qui est à la fois insupportable, inacceptable et habituel et permanent. Elle vit dans un environnement où les deux tiers, voire les trois quarts des commerçants payent une espèce d'impôt à la mafia qui s'appelle le pizzo. Et à Palerme, il y a comme ça beaucoup d'éléments qui sont très très marqués par la présence de la mafia. Mais, comment dire, c'est pas pour ça que les gens trouvent ça normal et quand elle plaisante là-dessus, c'est aussi une manière de rendre respirable quelque chose qui est irrespirable et de ne pas le passer sous silence. La première des luttes contre la mafia, c'est d'accepter d'en parler, quitte à ce que ce soit pour plaisanter dessus, si vous voulez. Et c'est déjà une manière de se positionner par rapport à la mafia, parce qu'elle repose d'abord sur le silence. Hein. C'est ça qui lui permet de régner, c'est qu'on en ait tellement peur qu'on va nier son existence. Alors Francesca, elle n'est pas comme ça. Elle va déconner là-dessus, exagérer en disant qu'à Palerme, les gens ont tous un Beretta dans la poche, alors qu'elle sait très bien que c'est évidemment complètement faux. Mais s'amuser de ça, c'est déjà aussi défier d'une certaine façon le pouvoir mafieux. Mafieux, s'en moquer.
Donc on voit bien que c'est une jeune fille qui a beaucoup de caractère. Sa petite sœur aussi, d'ailleurs, puisque elle est non seulement elle a des talents d'imitatrice, mais on sent qu'elle va avoir une forte personnalité. Par exemple, quand il est question de la télévision dite de Berlusconi, où vous rappelez que la place des femmes avait quand même une image un peu dégradée.
Ah oui, bien sûr, épouvantable, oui, tout à fait.
Et que du coup, la petite sœur de Francesca, qui a quoi, 15, 16 ans,
oui,
qui est une adolescente, on voit bien que ça peut faire partie de cette nouvelle génération qui va lutter précisément contre cette dégradation de l'image de la femme.
Oui, 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 bien sûr. C'est une jeune fille avec beaucoup de tempérament et en même temps, dans ses instruments d'affirmation de soi, il y a tout l'attirail de la féminité la plus vulgaire. Comme beaucoup de jeunes filles de sa génération, hein, on est dans une mode d'une accessoirisation de la féminité à outrance où il faut ressembler à une actrice X pour être considérée comme sexy et désirable et avec des tonnes de maquillage, les cheveux lissés, etc. Donc elle joue à la fois de ça, mais justement comme si c'était un jeu de rôle et une manière de dire je fais ce que je veux, y compris pour rire, adopter ce type de déguisement. Mais en même temps, dans ses imitations, quand elle imite la présentatrice de télé qui est très gratinée, mais assez brillante aussi, Lily Gruber, qui interroge Matteo Salvini, elle prend la place de la femme qui se laisse pas écrabouiller, qui ne se laisse pas réduire par le masculin, et elle imite aussi Lisa Boldrini, qui est une femme politique italienne, une féministe très engagée, et en défendant les femmes qui font de la chirurgie esthétique en disant que ce ne sont pas elles les coupables, elles sont les victimes des diktats de la mode. Mais en ceci, c'est aussi une jeune fille qui est tout à fait révélatrice du moment qu'on est en train de traverser, où il y a un très très grand réveil du besoin de respect, de dignité et d'égalité de la part de beaucoup de jeunes femmes grâce au mouvement Balance ton porc, MeToo et toute cette vague qui est une vraie bénédiction pour tout le monde et je trouve presque plus pour les hommes encore que pour les femmes. C'est quelque chose, c'est miraculeux ce qui s'est passé ces deux dernières années. C'est vraiment très, très important. Et même en Italie, tout ça nourrit beaucoup de débats. Italie, un pays quand même un petit peu plus machiste et un peu plus conservateur au niveau des rapports hommes-femmes que la France. Mais là-bas aussi, il y a beaucoup, beaucoup de femmes qui se réveillent. Et j'avais aussi envie de montrer cette force et ce côté offensif des personnalités féminines dans mon livre, c'était important.
C'est donc pour cela que vous avez choisi une narratrice femme, parce que justement, elles ont une forme de courage. Parce que là, il en faut beaucoup de courage pour s'opposer à sa famille et dire « je ne fêterai pas Noël avec vous ».
Oui, oui, oui. Je crois que ça m'intéressait de construire un personnage de jeune femme qui soit à la fois... qui est des éléments de masculinité, entre guillemets, dans son personnalité, c'est-à-dire qui a à la fois beaucoup de force, mais aussi cette force supplémentaire qui est celle de regarder en face et d'accepter ses propres zones de vulnérabilité et de ne pas... alors ça, c'est une force qu'ont beaucoup de femmes, plus que les hommes, c'est-à-dire de ne pas avoir besoin de dissimuler ses faiblesses, y compris à soi-même, pour être fort. En fait, pour être fort, il faut être complet, je crois. C'est-à-dire, il faut assumer ses zones de fragilité et sa sensibilité. Et c'est ça qui fait qu'on est un être entier, si vous voulez. Et ça m'intéressait aussi de... Je pense que il est plus réaliste, tout simplement, de montrer une jeune femme qui fonctionne comme ça, à notre époque, que si c'était un garçon, ce serait plus difficile à faire passer surtout un tel sens de l'autodérision. Et plus féminin, j'ai l'impression, actuellement, je parle pas, c'est pas dans l'ADN féminin, mais culturellement, et peut-être un peu plus féminin que masculin aujourd'hui.
Alors, il va y avoir beaucoup de rebondissements dans votre roman, Jérémy Lefebvre, l'Italienne qui ne voulait pas fêter Noël. Et je vais m'arrêter aux deux tiers du livre pour ne pas donner à nos auditrices et auditeurs trop d'indices. Va-t-elle, Francesca, célébrer Noël avec ses parents, avec son frère et avec sa sœur ou pas ? Réponse dans le livre. En revanche, vous, Jérémy Lefebvre, vous seriez capable de dire non à votre famille pour cette fête de Noël ?
Eh bien, écoutez, en fait, j'ai arrêté de fêter Noël depuis la première fois, c'est 2003. Et je n'ai plus une seule fois, j'ai remis ça, mais en fait, j'ai arrêté. Oui, je ne fais plus de Noël. Et pourtant, j'ai une famille très nombreuse et ça se passe bien. Tout le monde a compris que c'était pas mon truc. Mais j'ai arrêté en grande partie, pas du tout seulement pour des raisons de refuser cette fête en tant que fête de famille. C'est l'ensemble qui s'est mis à m'écœurer complètement à titre personnel. Cette espèce de débauche, de frénésie, de consommation et puis la forme de gastronomie qui est celle de rigueur à Noël, qui est quand même à base de foie gras et de choses qu'on obtient en torturant des êtres vivants. Enfin, je suis pas vegan, etc. Mais là, je trouve qu'il y a une espèce d'obscénité et de surenchère. Vraiment, ça me fait penser à la grosse bouffe de Marco Ferreris, qui est devenue l'idée de réveillon, de banquet. Tout ça me déplaît énormément et je supportais plus. Ce qu'est devenu cette fête dans le monde occidental, je me fais horreur vraiment. Donc je ne fais rien à Noël depuis plus de 15 ans maintenant.
Mais on peut aussi se réunir autour d'une table, manger simplement, boire un petit verre de vin quand même, sans tomber dans la bombance et l'outrance.
C'est vrai, mais
être avec ce qu'on aime, parce que c'est ça le vrai sens, enfin, de mon point de vue, l'esprit de Noël, c'est être avec ce qu'on aime.
Oui, mais chez moi, l'ampoule est grillée, donc je peux être avec ceux que j'aime et j'en ai besoin comme tout le monde, mais je préfère d'autres moments que celui-là.
Il y a un sapin de Noël quand même chez vous ?
Non.
Aucun signe de Noël.
Si ma compagne aime bien Noël, donc chez elle, quelquefois, il y en a. Je ne fais pas d'allergie complètement maladive non plus, si vous voulez, mais c'est un moment où je préfère échapper à tout ça. Et du coup, ça devient une période agréable et reposante parce que je ne m'impose absolument rien de ce que tout le monde s'impose. Et voilà.
Voilà donc l'auteur qui ressemble infiniment à son livre, voilà. Qui aurait pu s'intituler « L'écrivain français qui ne voulait pas fêter Noël ».
Exactement.
Merci beaucoup, Jérémy Lefebvre.
Merci à vous.
Je vous souhaite quand même un joyeux Noël à vous et à vos proches. Et je rappelle que vous êtes l'auteur de ce roman délicieux, tragicomédie, l'italienne qui ne voulait pas fêter Noël et qui a paru aux éditions Buchet-Chastel.
Natale è ritornato ormai, la neve bianca più che mai, e col pensiero volto al cielo, i bimbi a letto sono già. Ma prima ancora di dormire, sogniamo che lui giù verrà. Papà Natale, sai la cosa mia dov'è? Chissà che bei regali hai, ti prego portene anche a me. Tanto freddo prenderai, e così tu ci ammalerai.
Littérature sans frontières, en partenariat avec le magazine Books.
Bonjour Baptiste Touvré.
Bonjour.
Nous sommes très heureuses de vous retrouver ici à Littérature sans frontières pour cette chronique mensuelle en partenariat avec le magazine Books auquel vous participez. D'autant plus qu'en cette fin d'année paraît un numéro spécial, décembre-janvier 2020, intitulé « Femmes singulières » où en effet sont recensées une trentaine de femmes exceptionnelles dans tous les domaines, artistes, femmes politiques, scientifiques même. On ne peut pas toutes les citer, mais on va commencer par celle qui donne son visage à la couverture, cette superbe Hedy Lamarr, qui était une actrice d'origine autrichienne, qui a été considérée au moment de l'âge d'or d'Hollywood comme la plus belle femme du monde. Mais ce qu'on a oublié, c'est que au-delà de sa beauté, c'était aussi une femme qui se piquait de faire des inventions, dont une qui probablement a permis de découvrir le Wi-Fi. Qui était Hedy Lamarr, Baptiste ?
Oui, c'est ça. En fait, c'est une actrice dont on redécouvre tout un pan de l'activité. Alors, sa réputation, c'est effectivement d'avoir été qualifiée de femme la plus belle du monde par Max Reinhardt, qui était un metteur en scène autrichien. C'est un titre qu'elle aurait pu partager avec d'autres, avec Greta Garbo,
par exemple.
Exactement. Ou Lana Turner. Et elle a une réputation d'être une actrice un peu potiche, un peu cruche. Et c'est vrai que c'était sans doute pas une grande actrice. Elle a jamais fait de films qui ont marqué l'histoire du cinéma. Elle s'est fait connaître par un film qu'elle a tourné à l'époque à Berlin. Le réalisateur était tchèque et ça s'appelait Extase. Et c'était une espèce de ressucé du motif de Lady Chatterley. Elle incarnait une jeune femme mariée à un personnage beaucoup plus âgé, qui va prendre pour amant un jeune homme très beau et très viril. Et il y avait des scènes un peu explicites, notamment une scène d'orgasme. Heureusement, on filmait simplement son visage, mais ça avait choqué et ça avait été censuré. Et par la suite, effectivement, les réalisateurs, elle est allée à Hollywood, elle était juive. Hein. C'est un point sur lequel elle n'a jamais, elle, insisté. Elle a quitté l'Autriche en 1933. Par la suite, les réalisateurs ont toujours mis en avant son physique. Certains disent comme l'acteur Errol Flynn, qu'elle était très sous-estimée. Mais elle a incarné, par exemple, Dalida dans Samson et Dalida. Elle incarnait toujours des femmes inaccessibles et un peu inquiétantes, voire manipulatrices.
Néanmoins, il faut rappeler que son physique était à ce point impressionnant que, par exemple, on dit qu'il a influencé le choix de Vivien Leigh dans le rôle de Autant en emporte le vent parce qu'elle a dû se faire teindre en brune comme était Eddie Lamar. Et de la même façon, le dessin animé Blanche-Neige, à l'origine, le personnage était blonde et elle est devenue brune pour ressembler à Eddie Lamar.
Oui, c'est ça, en fait. Alors, Eddie Lamar, c'est pas son vrai nom, hein. C'est le nom qu'elle a eu une fois qu'elle était à Hollywood. Son nom d'origine, c'est Edwige Kiesler. Et son physique, c'est une très belle brune qui avait une raie au milieu des cheveux qui retombait en ondulation sur ses épaules. Et effectivement, alors Vivien Leigh, je pense qu'elle était brune à l'origine, mais que elle a eu le rôle parce qu'elle ressemblait à Eddie Lamar. Et il y a plein d'autres histoires du même acabit. Ridley Scott s'inspire de son physique pour la beauté un peu étrange, hiératique de la réplicante Rachel dans Blade Runner. Mais alors, effectivement, le problème, c'est que on l'a complètement réduite à ce physique-là.
Alors, arrivons-en précisément à ce qui fait l'originalité de sa vie et qui justifie son portrait aussi dans ce numéro de Books. C'est que donc, dans les années 30, elle est mariée avec un industriel de l'armement autrichien, un homme dont elle va se séparer rapidement. Mais néanmoins, elle est dans un environnement où on parle beaucoup de stratégie, d'armes, comment torpiller les sous-marins. Et quelques années plus tard, quand elle va rencontrer un musicien américain qui s'appelle George Antheil, avec qui elle n'aura qu'une relation d'amitié, ils vont se rendre compte que l'un et l'autre sont très attirés par une invention en particulier. Alors, c'est un peu compliqué parce que c'est la fréquence radio pour éviter l'interception ou le brouillage de la communication avec la torpille par l'ennemi.
Oui, en fait, c'est ça. C'est que elle avait été choquée, Eddie Lamar, par le torpillage d'un paquebot britannique qui amenait au Canada des écoliers pour les protéger. Et elle voulait aider, en fait. Elle voulait aider à l'effort de guerre allié. Et elle a essayé de trouver un moyen d'empêcher les torpilles allemandes qui étaient téléguidées si le bateau changeait de direction pour suivre le bateau, d'essayer de protéger, en fait, les bateaux du torpillage. Et son idée, ça a été, c'était pas une idée novatrice, mais elle l'a, disons, déployée à une échelle tout à fait inédite. C'est le saut de fréquence. C'est l'idée que la diffusion radio doit changer sans arrêt de fréquence. Et c'est une idée qui, dans un premier temps, a fait chou blanc, mais ensuite a été reprise et dont le débouché technologique a été extrêmement fécond. Parce que on l'utilise dans les téléphones sans fil, dans les GPS, dans le Wi-Fi, dans les liaisons Bluetooth. Donc, c'était vraiment une idée géniale. Elle n'a pas eu que des idées géniales, hein.
Oui, elle a inventé des choses beaucoup. Un peu farfelues. Par exemple, un collier fluorescent pour chien, une poubelle pour mouchoir en papier usagé adaptable à toutes les formes de boîtes. Donc, c'est vrai qu'il y avait un catalogue d'inventions qui n'a pas forcément été repris.
Oui, c'est ça. Mais c'était une femme qu'on pouvait imaginer cruche, bête, et qui en réalité avait une vivacité d'esprit. Elle aurait pu être tout autre chose qu'une actrice, en fait. C'est ça qu'on découvre dans cet article. Elle dit d'ailleurs, c'est ce qu'explique l'article à la fin, que son physique a plutôt été une malédiction. On ne sait pas quelle est la part de mauvaise foi là-dedans, mais ses activités extra-cinématographiques constituent peut-être ce qui la définissait le mieux et ce qu'on est en train de découvrir à présent.
Voilà, comment redécouvrir Eddie Lamar, une femme qui est non seulement était belle, mais aussi intelligente, dans cet article de Books signé Michel André, portrait qu'on a pu évoquer avec vous dans ce magnifique numéro spécial, ce hors-série que Books propose tout ce mois de décembre et jusqu'au mois de janvier 2020, intitulé « Femme singulière ». Au pluriel, évidemment. Merci Baptiste.
Merci à vous.
Les éditions Jean-